Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenue sur Build Yourself, votre ressource pour tout ce qui est marketing en ligne et podcasting. Je suis votre hôte, Safia, ancienne juriste devenue entrepreneur du web. Je vous aide à faire du podcast le meilleur atout de votre business, un support pour atteindre plus de monde et devenir la référence dans votre domaine. Téléchargez mon guide gratuit pour découvrir les trois étapes indispensables pour lancer son podcast, disponible à l'adresse safiagourari.fr/guide. Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode, installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. On nous a inculqué depuis toujours que pouvoir vivre de son art, c'est un peu une utopie. On a cette image des artistes qui sont des personnes fauchées, mais qui du coup ont accepté leur destin en quelque sorte et envers et contre tout veulent faire un job qu'ils aiment. Ce qui est bien, c'est qu'on est en 2021 et que tout ça, c'est plus du tout d'actualité. Aujourd'hui, sur le podcast, on reçoit Marie Boudon, connue sous le pseudo Les Tribulations de Marie. Je connais Marie depuis, je pense que ça doit faire un an maintenant. On s'est connues toutes les deux grâce à Pinterest, chez qui on a fait un workshop chacune. Et donc Marie est aquarelliste et elle est également chef d'entreprise. Et je trouve qu'elle a un parcours qui est hyper, hyper inspirant. C'est une femme qui est ambitieuse et déterminée et qui n'hésite pas à entreprendre. Ça me tenait vraiment à cœur de la faire intervenir dans le podcast pour montrer aux créatives parmi vous, aux artistes parmi vous, que oui, vous pouvez vivre de votre activité et vous pouvez développer une entreprise et que non, il n'y a pas que les personnes qui parlent de finances, de perte de poids ou de marketing qui peuvent générer des revenus en ligne, loin de là. Donc je vous laisse sans plus tarder avec notre échange. Comment ça va, Marie ?
Eh ben super, et toi ? Trop contente de
t'être ici. Mais moi aussi, très contente de t'accueillir, d'autant plus que tu as un parcours qui est, il est juste incroyable, quoi. Alors, tu es aquarelliste et formatrice, mais j'aimerais bien que tu me dises ce que tu faisais avant ça.
Déjà, merci beaucoup pour tes mots, ça me touche beaucoup. Bah, écoute, c'est vrai que c'est un parcours un peu, peut-être un peu différent. Donc en fait, à l'origine, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc j'ai fait prépa scientifique et ensuite j'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur à Grenoble. Dans les énergies renouvelables, voilà. Et en fait, au bout de 3 ans environ, j'ai changé de vie. Et donc, je suis devenue, on va dire, créative, entrepreneur créative, quoi. Donc, j'ai monté mon business de cours vidéo sur l'aquarelle. C'est le cœur de mon métier.
Ça fait combien de temps que tu fais de l'aquarelle ?
L'aquarelle, j'ai découvert ça vraiment enfin. J'ai fait une enfance très créative. Enfin, d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'il y a quelques temps sur Instagram, je partageais un peu les jeux créatifs de notre enfance. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein. Et voilà, donc beaucoup de loisirs créatifs étant enfant. Et j'ai découvert l'aquarelle notamment quand je devais avoir 12 ou 13 ans. Mais ça n'a pas été le coup de cœur parce que c'est un médium qui est difficile et qui est aussi, en tout cas à l'époque, qui était très vieillot. C'était très la campagne, les bateaux, Franchement, ça m'a pas forcément plu quand j'étais enfant, donc j'en ai quasiment jamais vraiment fait. Et après, un peu plus tard, pendant mes études, j'ai un petit peu fait d'aquarelle parce que je suis partie en Erasmus à Stockholm pendant mes études d'ingénieur. Et d'ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai créé mon blog Les Tribulations de Marie. C'était Les Tribulations de Marie en Erasmus en Suède à la base.
D'accord. Voilà, ah, c'est intéressant, partager... je savais pas qu'il y avait... Ouais, c'était voyage un peu,
c'est
du coup.
C'est ça, c'est ça. C'était partager mes photos de voyage à ma famille à la base. Et en fait, j'ai un peu continué. Donc, j'avais apporté mon aquarelle parce que c'était un peu un truc facile à emporter. Je m'étais dit, bah tiens, t'auras plus de temps peut-être, tu pourras peut-être te remettre un peu à la peinture et tout ça. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai découvert une nouvelle façon de faire de l'aquarelle, beaucoup plus moderne, beaucoup plus pigmentée, beaucoup plus spontanée, avec des sujets modernes, notamment les fleurs. Et c'était par contre essentiellement du contenu en anglais. Oui, des peintres anglais, enfin, aux États-Unis, voilà, un peu partout dans le monde. Et ça m'a beaucoup plu et c'est un peu comme ça que je me suis mise vraiment à fond dans ce loisir. Beaucoup quand je suis revenue après en France et quand j'ai commencé à travailler du coup en 2015. Là, je me suis mise à fond là-dedans. C'était mon truc principal alors qu'avant je faisais un peu de tout. Je faisais un peu d'acrylique, je faisais du scrapbooking, je faisais plein d'autres loisirs. Et après là, je me suis mise aquarelle, on va dire, quand j'ai commencé à bosser en 2015. Et voilà, et après, bah, j'ai fait que ça, quoi. J'ai pas exploré autre chose.
Et à quel moment tu te dis, je quitte ma carrière d'ingénieur? Il me semble que t'as pas fait de burn-out.
Non.
C'est juste que t'as eu envie finalement de changer de carrière. À quel moment tu t'es dit, je vais faire ce shift?
Bah, ça a pris du temps quand même parce que j'avais développé un vrai projet autour de mes études, en fait. J'avais une passion pour les écoquartiers. Donc tout ce qui est, en fait, comment optimiser l'énergie, et comment optimiser les données dans un quartier, comment utiliser les données, en fait, pour optimiser les flux énergétiques, la mobilité et compagnie, pour que ça soit plus durable. Donc j'avais quand même vraiment une passion sur ça. J'étais allée en Suède exprès parce que c'est là-bas où il y a les plus anciens écoquartiers en Europe. Donc j'avais quand même un vrai projet. J'avais mis 6 mois à trouver un CDI dans ce thème et j'étais chef de projet éco-quartier. Donc vraiment, c'était pile poil ce que je voulais faire. Donc j'étais pas prête à laisser tomber le bébé comme ça au bout de 2-3 ans à peine, alors que j'avais fait quand même 5 ans d'études et tout. Je me disais non, tu peux pas tout lâcher comme ça. Voilà, on t'est passé par là aussi, je crois.
Ouais.
et en fait, moi, j'avais pas forcément envie d'arrêter. Parce que quand je faisais mon aquarelle en parallèle, je faisais ça le matin, le soir, j'étais à fond, c'était mon truc, j'étais trop contente de faire mon aquarelle. En fait, pour moi, c'était très compliqué d'imaginer pouvoir en vivre. Et je me disais, t'habites à Paris, mon copain qui est maintenant mon mari à l'époque, il était aussi à Paris, donc on n'allait pas changer. Je me disais, mais comment, ça me paraissait impossible en fait de voir comment monétiser ma passion. Et donc, j'y croyais pas trop, mais en même temps, j'avais envie de autre chose, et c'est vrai que ça me faisait rêver, mais clairement, je me projetais pas trop non plus. Je me disais, il faut que tu trouves un métier voilà, qui te plaise et qui correspond à tes compétences. Et en fait, début 2017, j'ai reçu... Mais en parallèle, je continue à faire mon blog parce que j'aimais bien, ça me plaisait de partager un peu mon expérience. Et en 2017, j'ai reçu une proposition d'une maison d'édition, donc Mango, qui m'a dit, on aime bien votre blog et on aimerait faire un livre, parce qu'à l'époque, en fait, il n'y avait quasiment pas de contenu sur l'aquarelle moderne en français. Comme je te disais, moi, il y avait beaucoup de contenu en anglais, mais quasiment pas en français. Il y en avait peut-être un peu, mais franchement, c'était très peu visible. Et moi, j'étais un des seuls blogs vraiment spécialisés sur ça, moderne, bienveillant, accessible et compagnie. Il y avait pratiquement que moi, en fait, qui faisait ça. Enfin, en tout cas, il y en était peu nombreux. Et donc, du coup, il me propose le projet. Et là, je me dis, waouh, écrire un livre. Déjà, faire mes articles de blog le week-end, c'est compliqué. Donc, écrire un livre, est-ce que c'est pas le déclic qu'il me faut? Donc là, je réfléchis. En même temps, je faisais que voir des signes. C'est au moment où La La Land est sortie. Donc, quand j'ai vu le film, ça a été le signe de plus. Voilà, je voyais des signes partout qui me disaient qu'il fallait que je me lance. Et voilà, donc ça a été un peu ça le déclic. J'ai eu une deuxième proposition d'une autre maison d'édition quasiment simultanée. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible, il y a un truc qui fait que là, voilà. Et au fond de ma tête, je m'étais dit que j'avais envie de faire des cours vidéo en français. Donc je savais que c'était quelque chose qui me tentait, mais voilà, jusqu'à présent, j'avais pas le déclic. J'avais testé, on va dire, ça faisait un an à peu près que j'étais déjà auto-entrepreneur à côté de mon travail d'ingénieur et je faisais des fois des conférences, je faisais des petites missions comme ça par-ci par-là, mais c'était vraiment des tout petits trucs. Et donc là, ça a été un peu le déclic, donc j'ai un peu... voilà, je suis un peu passée de trucs très différents d'un coup, mais voilà, ça s'est fait comme ça. J'ai démissionné, du coup, j'ai pas pu avoir le chômage parce que, en fait, juste avant, je venais d'avoir une promotion. Donc, c'était complètement incohérent pour eux de, d'un coup, dire « Ah ben non, finalement, on fait une rupture conventionnelle ». Donc, en fait, voilà, c'est pour dire que c'était pas du tout... J'avais pas anticipé le truc. Donc, démission, et voilà, ça s'est lancé comme ça. J'ai fait 6 mois avec un peu d'argent de côté, on va dire. Et après, ben, ça a commencé à fonctionner au bout de 6 mois. Donc, finalement, c'est assez court. Voilà, je m'étais donné 1 an. Je m'étais dit, si au bout d'un an, le truc, ça va pas, tu retournes ingénieur, quoi. Voilà.
Est-ce que tu as immédiatement lancé ta formation, ta première formation, ou est-ce que tu l'as fait quelques temps après, t'être mise à ton compte ?
Tout à fait. Ben, en fait, quand je me suis lancée, j'ai dû d'abord commencer par écrire le livre. Parce que il m'avait contactée au mois de janvier, donc j'ai commencé à travailler pour moi en juillet, le temps de démissionner, de réfléchir, il y a toujours une période de mois de préavis de départ et compagnie. Donc ça a commencé en juillet, donc j'ai dû sortir le livre, je vais le rendre en septembre. Donc c'était quand même assez court.
Ouais, c'est vachement court.
Donc, ouais, c'était quand même assez court. Et puis bon, faire un livre, il y a énormément d'étapes de co-création avec la maison d'édition, on va dire. Et en plus de ça, en parallèle, j'avais la deuxième maison d'édition qui m'avait en même temps quasiment proposé un projet que j'avais accepté. Donc j'ai lancé un deuxième projet éditorial en même temps. Donc c'était pas au même stade, c'est-à-dire que J'ose créer, donc c'est mon projet avec Erol, c'est un livre sur la créativité qui a été du coup... Il était plus en phase amont. La phase amont a duré plus longtemps que le livre sur l'aquarelle. Donc, en septembre, octobre, on va dire, j'étais aussi en phase de négociation avec Erol pour expliquer le projet, pour lancer le projet. Enfin, il y a toute une phase en amont d'un livre. Il faut qu'on détermine le budget, il faut convaincre le comité éditorial et compagnie. Donc, il y a ça qui s'est fait en plus de la création de Fleurs à l'aquarelle, mon premier livre avec Mango. Voilà, et une fois que j'ai rendu Fleurs à l'aquarelle et que tout était bon et que j'ai rendu tous les papiers, toutes les présentations pour J'ose créer, là je me suis mis à fond sur mon premier cours parce que c'était ça qui allait concrètement m'apporter des revenus alors que les livres, bon, c'est compliqué d'en vivre, on va dire. Donc j'ai sorti mon premier cours en décembre 2017 du coup. Et voilà, c'est là que j'ai commencé mon projet. C'est fin décembre à Noël 2017, quoi. Mon premier cours sur les bases, parce que c'est ce qu'on me demandait constamment. Comment apprendre l'aquarelle? Comment t'as appris l'aquarelle? Voilà. Donc du coup, j'ai résumé tout ça dans ce cours que je vends encore, d'ailleurs, et que j'ai complètement refilmé l'été dernier. Voilà.
Ah oui. Et du coup, t'as trois cours en ligne aujourd'hui, si je me trompe pas.
Voilà, c'est ça. Bah, du coup, le premier, c'était maîtriser les bases de l'aquarelle. Le second, c'est fantastique fleurs, parce que ma spécialité, c'est les fleurs à l'aquarelle. Je trouve que c'est un excellent moyen pour se lancer à l'aquarelle, parce que ça fait travailler à la fois la gestuelle, les couleurs, la composition, les palettes de couleurs, les formes variées, etc. C'est des formes graphiques très variées. Il y a plein de niveaux de difficultés aussi. Ça peut être très facile, mais ça peut être aussi assez difficile de faire des bouquets, d'associer les couleurs ensemble, etc. Donc, Fantastique Fleurs, c'est vraiment mon programme, on va dire, signature avec toutes mes techniques sur les fleurs que j'ai sorti assez rapidement après maîtriser les bases de l'aquarelle. Il est sorti en mars 2018, à la sortie de mon livre, en fait, à la sortie du premier livre, donc quelques mois après.
D'accord.
Voilà, ouais. Ils sont sortis en même temps. En fait, j'avais le livre et je disais, si vous voulez aller plus loin, il y a mon cours vidéo. Voilà, ça m'a permis aussi de coupler un peu les deux. Mm-hmm. Parce que l'avantage du livre, c'est que ça permet de toucher une audience beaucoup plus grande que j'aurais pas forcément pu toucher à l'époque où j'avais pas une très grosse audience. Et après, mon troisième programme s'appelle Destination Digitale. Lui, il est arrivé plus tard. Il est arrivé fin 2019 parce qu'en fait... Moi, je me suis rendu compte au final que ce qui a fait que mon aventure a commencé, c'est pas d'avoir fait l'aquarelle, c'est d'avoir su prendre des photos et faire des visuels de mes créations. En fait, c'est mes maisons d'édition, ce qu'elles m'ont dit, c'est on vous a choisi parce qu'on a trouvé votre blog et on a aimé vos photos, on a aimé vos visuels. Et en fait, ce qui a changé ma vie, c'est plus savoir faire des visuels qu'apprendre l'aquarelle. Parce que si j'avais appris l'aquarelle... Voilà, si j'avais continué à faire dans mon coin l'aquarelle, ça n'aurait pas changé ma vie. Au final, je serais peut-être toujours ingénieur et je ferais peut-être toujours de l'aquarelle le soir et le matin. Ce qui a vraiment joué, c'est les visuels. C'est savoir mettre en avant mon art, numériser mon art, le nettoyer proprement et puis après le vendre aussi pour faire des puzzles, pour faire tout plein de trucs, pour faire des livres. Et du coup, j'ai fait cette formation Destination Digitale pour apprendre aux gens à utiliser Photoshop pour, à leur tour, savoir numériser une création, en la nettoyer, enlever le fond et l'utiliser aussi pour ensuite faire des faire-part, des cartes, voilà, tout ce genre de choses. Donc ça, c'est une formation un peu différente, plus sur Photoshop.
Ouais, mais ça rejoint complètement la question que je voulais te poser ensuite, parce que du coup, comme je te suis sur les réseaux sociaux, je vois ton organisation, le matériel que tu utilises pour tes lives, pour préparer ton contenu, etc. En fait, je me demande comment t'as appris tout ça, parce que oui, tu vends des cours sur l'aquarelle, ma thématique à moi, elle est hyper différente, c'est le podcast et le business en ligne, donc je peux me contenter de quelques slides, d'une voix par-dessus, ou d'un contenu face cam, et c'est tout quoi. Alors que toi, c'est vraiment du tutoriel, t'es obligé de montrer et de faire une démonstration avec un contenu qui est un peu plus travaillé, on va dire, que le mien. Et donc je me demandais comment t'as appris à créer ce type de contenu et à apporter la qualité que tu produis aujourd'hui.
Bah écoute, c'est vrai que c'est quand même pas si évident que ça, je dois avouer, parce qu'en plus, j'aime bien, peut-être un peu perfectionniste sur ça, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, la qualité de notre contenu, c'est quand même hyper important. C'est-à-dire que si tu vas sur YouTube, que tu as une vidéo avec un son vraiment horrible, ben, tu regardes pas la vidéo, quoi. Il y a tellement de contenu que tu changes, tu passes à un autre contenu. Pareil, une vidéo d'un tuto, si elle est filmée gris, tu vois rien, l'angle est nul, la vidéo, enfin la caméra est de travers, donc au final tu vois pas bien ce que la personne veut montrer, ben, t'arrêtes et tu prends une autre vidéo. Donc en fait, moi dès le départ, je me suis dit, si je mets tous ces efforts, si je démissionne entre guillemets pour faire ça, c'est pour faire bien, quoi. J'ai pas envie de faire à moitié. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne ça, c'est un indispensable. Donc j'ai passé beaucoup de temps, alors au début bien sûr c'était comme j'ai pu, hein. C'était avec mon réflexe de Stockholm, c'était avec ma petite caméra, on va dire mon petit compact basique et mon téléphone, parce qu'en fait je fais chaque fois trois vues, vue du haut, vue de face et vue de côté. Enfin pour certaines vidéos sur YouTube il n'y a que deux vues, mais pour mes cours en tout cas il y a trois vues.
Ouais.
Parce que c'est important de montrer l'angle du pinceau, comment je tiens mon pinceau, et de haut, on voit pas trop ça, je trouve.
Ouais.
Donc, dès le début, en fait, je me suis dit, il faut que je me forme sur ça. Donc, j'ai cherché plein de contenus sur Google, principalement, parce qu'il n'y a pas vraiment de cours sur ça. Même si je suis accro aux cours vidéo, j'ai pas trouvé de cours sur comment set up un studio artistique, on va dire, ou en tout cas un truc de vue par-dessus, quoi. Il y a très peu de contenu sur ça. Donc voilà, chercher beaucoup, essayer d'observer ce que font les autres. En fait, au final, il faut beaucoup tester par soi-même parce qu'il n'y a pas vraiment de setup qui correspond à ta configuration parfaite. Donc au fil des années, j'ai amélioré. Là, récemment, j'ai changé de caméra, j'ai changé de lumière, je me suis rendu compte qu'au final, il fallait que je change de micro, il fallait que je travaille l'acoustique. Enfin, tu vois, dès que tu te trouves face à un problème, au lieu de me dire... je sais pas faire, donc ça se fera pas. J'essaye de me dire, comment je pourrais faire. Donc je cherche sur Google, sur YouTube des tutos. J'essaye de trouver des nouvelles idées. J'essaye de comparer, voilà. Enfin, un peu la débrouille, mais au fur et à mesure, j'ai un truc de plus en plus pro, quoi. Donc j'ai appris toute seule au final.
Ouais, c'est hyper intéressant. Je trouve que c'est un bel exemple de détermination. Mais du coup, je me demande combien de temps en moyenne pour avoir une idée, tu mets à créer une formation vu le travail qu'il y a derrière. Ouais.
Bah écoute, ça prend plusieurs mois. Là d'ailleurs, spoiler alert, je travaille sur une nouvelle formation. Et oui, je suis déjà en train de travailler dessus pas mal de mois à l'avance, on va dire. Parce que, ça dépend. Il y a des choses qui vont vite, il y a des choses qui vont moins vite. Faire le setup, une fois qu'il est fait, là ça m'a pris un mois à peu près pour refaire mon setup entièrement dans mon nouvel appartement. Donc le temps de trouver le nouveau matériel, le temps de comparer tout, le temps de tout installer, le temps de résoudre tous les bugs. Franchement, ça m'a pris quasiment un mois le temps de faire tous les tests. Donc c'est quand même assez long.
Ouais.
Mais maintenant que c'est fait, ça va aller assez vite. Donc je vais pouvoir tourner rapidement mes vidéos. Je sais que par exemple, pour mon cours sur les fleurs, qui fait à peu près 8-9 heures de contenu, j'avais passé 3 semaines à tourner. Voilà, donc en soi, ça va.
Ouais, ça va, je m'attendais à plus.
Ouais, parce que en fait, je fais ce que j'appelle du semi-direct, c'est-à-dire que je fais très peu de retouches, c'est-à-dire que je me filme et je fais pas beaucoup de cuts quand je parle. C'est pas comme une vidéo YouTube où t'as besoin qu'il y ait quand même un contenu de qualité sans trop de « e », tu vois, qui soit vachement cuté, vachement monté, édité et tout. Dans mes cours vidéo, c'est plus naturel, on va dire, c'est pas accéléré. Donc du coup, je fais un peu du semi-direct, c'est-à-dire que je me filme en one-shot et après, j'intervertis les différentes vues, mais je fais pas beaucoup de montage. Donc du coup, en soi, la vidéo à tourner, elle va assez vite.
Ouais.
Tu vois ?
Je vois.
Mais oui.
Et du coup, comment tu... comment tu gardes cette notion de plaisir quand ta passion, c'est aussi ton métier? Est-ce qu'il y a des fois où tu te sens vide de créativité ou... ouais,
t'as pas envie. C'est la question vraiment... c'est une question super intéressante, mais très, ouais, très compliquée. En fait, il y a plusieurs choses qui sont rentrées en jeu. C'est que c'est vrai que l'aquarelle, c'était un peu... moi, mon moyen de souffler quand j'étais ingé, quand j'avais ma routine, et l'aquarelle, c'est un truc qui déconnecte, en fait, et je le conseille à tout le monde. Hein. Si vous êtes débordé, si vous savez, voilà, si vous n'arrivez pas à trouver un petit moment pour vous et que vous avez envie de vous déconnecter vos Excel, vos PowerPoint et tout, l'aquarelle, t'es obligé d'être hyper concentré sur ton truc, parce que comme si t'as pas de blanc pour repasser par-dessus si tu te trompes, vu que le blanc, c'est l'eau, bah, c'est un peu ouais. instantané, ça prend 5 minutes, et au bout de tes 5 minutes, bah, tu passes à autre chose ou tu recommences. Donc ça faisait beaucoup de bien. Mais une fois que j'ai lancé mon auto-entreprise à l'époque, l'aquarelle, c'était mon business, c'était mon gagne-pain. Donc du coup, me dire le soir, bon, bah, allez, une petite aquarelle pour me changer les idées. Non, à chaque fois, c'était, bon, nouvelle vidéo, qu'est-ce que je pourrais raconter dans ma newsletter voilà. Ouais. Donc non, c'est devenu, en fait, c'est devenu que j'ai fait que travailler non-stop, tout le temps. Donc au début, c'était hyper stimulant parce que j'adorais ce que je faisais. J'étais là, waouh, c'est génial, je m'ennuie jamais. C'est trop bien de vivre de sa passion. J'ai tout le temps de nouveaux trucs à faire. Chaque jour est différent. Donc au début, j'étais hyper stimulée. Puis au bout d'un moment, on va dire l'été dernier, notamment quand j'ai binge-écouté ton podcast, là, je te racontais. L'été dernier, j'ai eu un moment où, en fait, je n'en pouvais plus. Alors après, je me plains pas du tout de ce que j'ai, et j'en suis hyper reconnaissante. Mais au bout d'un moment, en fait, il y avait que mon business dans ma vie, et même s'il marchait très très bien, je savais plus vraiment quand m'arrêter. J'avais pas de rythme, j'avais trop d'objectifs à chaque fois, toujours des nouveaux objectifs. En fait, jamais satisfaite. En fait, ça n'arrivait. Je me mettais tout le temps des nouveaux objectifs parce que le truc marchait, et ça n'arrivait jamais le moment où je lui disais bon, bah, c'est bon, t'as atteint ton objectif, stop, fais ton hobby.
Ouais.
Donc, j'en suis encore. J'ai réussi à m'améliorer sur ça, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des hobbies en dehors de mon métier, quoi. J'essaye un peu de me remettre au piano, j'essaye un peu de faire plus de sport. J'essaye, comme en écoutant tes podcasts, ça m'a aidé à me déculpabiliser, à me dire c'est bon, t'as le droit d'avoir des week-ends, t'as le droit de prendre du temps off. Quand j'écoutais certaines de tes interviews avec différentes personnes et tout. Mais voilà, c'est pas évident du tout, parce qu'il y a toujours cette culpabilité. Comme ma passion, mon hobby d'avant, c'est devenu mon métier, j'ai l'impression que presque tout le temps, entre guillemets, je fais un hobby, mais non, c'est un vrai business, et j'ai le droit d'avoir des moments de pause, quoi. Et ça, c'est dur de réussir à tout équilibrer, quoi. Voilà.
Donc, ouais, je me doute. Mais du coup, vu que ton activité fonctionne bien, vous êtes déjà 3 dans l'équipe, il me semble, et voilà. Vous êtes en processus de recrutement pour une 4e personne. Alors, dans un premier temps, je vais te demander... Alors, moi, j'ai hyper du mal avec le fait de déléguer. Tu vois, je travaille dessus en ce moment. J'ai du mal à lâcher prise et à accepter le fait que c'est pas moi qui vais tout faire, que ce sera pas fait comme moi je le fais. Et donc, je me demande comment toi tu gères, parce que t'as déjà 2 personnes qui travaillent avec toi. Donc, je me dis que t'as une certaine expérience. Est-ce que ton mari aussi fait partie de l'équipe?
Ouais.
Donc, ouais, voilà, ouais. C'est aussi mon cas. Mon compagnon est mon associé dans mon entreprise. Et du coup, j'ai aussi cette relation de couple qui est dans le business. Donc, comment tu gères le fait que ton mari soit ton partenaire de business aussi et que tu doives déléguer des choses?
Bah écoute, ça, au bout d'un moment, j'avais pas le choix, quoi. C'est-à-dire que c'est, par exemple, on va dire la période mai-juillet, enfin entre avril et juillet de l'année dernière, je devais gérer à peu près 200 mails par jour. Et ça fait vraiment partie de mon business de répondre aux mails. Et je ne pouvais plus, en fait, répondre aux mails correctement. C'est-à-dire que c'était soit bâclé, c'est-à-dire que je ne répondais pas à tous les mails, ou je ne pouvais pas répondre des vraies réponses, parce que les gens, en fait, se livrent beaucoup aussi par mail, ils partagent leur expérience, etc. Et moi, je n'arrivais plus, quoi. Enfin, c'était plus possible, quoi. Au bout d'un moment, en fait, je pétais un plomb, vraiment. C'est-à-dire que je n'avais plus envie d'envoyer un mail, parce que je me disais, c'est bon, je vais recevoir 200 réponses tous les jours pendant 2 jours ou 3 jours. Et franchement, ça m'angoissait un peu, quoi. Et je voyais plus comment gérer. Je me disais, je dormais pas bien la nuit parce que je me disais, tu vas pas réussir à tout faire. Je suis arrivée à un moment, c'est un peu là justement au moment où je me suis dit, il faut absolument que tu changes. Et donc, notamment, je me suis un peu remis dans le développement personnel. J'ai réécouté un peu, tu vois, j'ai écouté un peu tes épisodes et tout, pour me dire, il faut que je trouve des solutions, là, c'est pas possible. Et le conseil numéro un que les différents mentors que je suis disaient, c'était recrute avant d'être prête, quoi. Donc je me suis dit, il faut absolument que je recrute, quoi. Enfin, il faut que je trouve quelqu'un qui m'aide à répondre aux mails, qui m'aide à répondre à tous les messages, parce qu'on reçoit des messages, comme toi, j'imagine, sur Insta, sur YouTube, sur Facebook, sur tout, quoi. Et c'était plus possible, je pouvais plus, en fait, faire des nouveaux posts Insta, parce que je répondais toute la journée aux mails, jusqu'à minuit. Enfin, franchement, c'est devenu n'importe quoi. Donc du coup, je me suis dit, bon là, il faut absolument que je recrute quelqu'un pour les mails. Donc ça a commencé comme ça. J'ai pris quelqu'un à temps partiel pour les mails. Et pour les messages divers et variés, même dans les cours, en fait. Dans les cours, toutes les semaines, j'avais des tas et des tas de commentaires de personnes et j'arrivais plus à répondre aux commentaires dans les cours. J'ai pas de communauté, mais j'ai quand même les espaces commentaires ouverts. Donc, ça faisait beaucoup de messages. Donc, ça, c'était le premier truc. Et après, mon mari, c'est venu un peu plus tard parce que, en fait, ça s'est fait assez vite, mais j'ai dû rapidement monter une société. Et donc, du coup, c'est devenu plus possible que mon mari me rejoigne, parce qu'avant, j'étais auto-entrepreneur et la première personne nous a rejoint au début en freelance, parce que je ne pouvais pas recruter autrement. Et en fait, c'était une période où on était en télétravail, enfin, lui était en télétravail, parce qu'il est aussi ingénieur. Et en gros, on se retrouvait une partie du temps dans le sud, dans notre maison près de la mer. Donc, ça, c'était génial. On était trop contents, on profitait et tout après le confinement. Ouais. Et en face, il y avait sa boss qui lui disait « Allez, reviens à Paris, tel jour et tout, reviens, machin. » Bon, là, j'ai dit « Bon, écoute, j'en ai marre de ta boss. Tu veux pas travailler avec moi ? Moi, j'ai du travail à revendre et tout. On essaye quelques mois. » En plus, on avait ce projet de déménager. Donc, j'ai dit « C'est le bon moment pour déménager et pour réussir à tout concilier. Ben, voilà, le déménagement, tout ça, ça pourrait se faire naturellement. Et si ça te plaît pas, tu trouveras un boulot à Lyon. Y a pas de souci. Bon, on est à Lyon, du coup, maintenant. » Et au final, ça lui plaît bien. Donc, il continue. Et heureusement qu'il est là, d'ailleurs, parce que...
Est-ce qu'il avait des connaissances, des compétences dans ce que tu fais ou il a appris au fur et à mesure ?
Un petit peu, parce qu'il faisait beaucoup de pubs. De pubs Facebook, de pubs Insta, de tout ce qui est... tout ce qui est advertisement. Il faisait beaucoup déjà dans son ancien métier. Il faisait du marketing, beaucoup. Donc là, il gère un peu toute la partie marketing. Mm-hmm. Et alors après, comment concilier le fait de travailler ensemble Alors lui, il arrive très bien à compartimenter, on va dire. Ouais. À telle heure, il bosse. Le reste, c'est fini, il risque pas de bosser. Donc bon, déjà, ça, c'est bien. Et après, on communique énormément. Alors après, ça, c'est dans notre couple en général. Depuis, on fait beaucoup d'efforts pour communiquer parce que voilà, on a appris que c'était la clé pour débloquer tous nos petits soucis, entre guillemets. On communique beaucoup. Dès que voilà, il y a un truc qui va pas, il me le fait savoir. Moi, je lui fais savoir. Et en vrai, on avance plutôt bien comme ça. Et on a mis en place assez tôt, du coup, en ajustant plusieurs fois, en communiquant le max. Ce qui lui convient, parce que moi j'avais tendance à le surveiller plus, dès que je voyais qu'il n'était pas en train de bosser, je disais mais tu te rends pas compte, si tu veux qu'on atteigne nos objectifs et tout, il faut absolument que tu sois focus. Lui il me disait mais moi j'arrive pas à être focus comme toi et tout. Bah, je disais mais si tu te mets pas en focus, tu seras jamais focus. Enfin voilà, tu vois, la maniaque de la productivité, comme je m'imagine, t'es un peu. Et lui en face un peu chill, donc c'était pas évident, mais bon maintenant on a trouvé un peu notre rythme. Voilà, donc j'imagine en discutant un max, en essayant de débloquer les trucs qui s'accumulent pour pas que justement ça s'accumule trop. Mais là, on a un bon rythme, donc lui, il fait toute cette partie marketing, toute la partie vente. Il gère aussi la personne qui s'occupe des mails, parce que même ça, j'arrivais plus à le faire.
Ouais.
Voilà, et donc là ça prend forme, quoi, on va dire.
Et du coup, tu cherches une quatrième personne pour s'occuper de quoi, finalement, pour déléguer?
En gros, si tu veux, là, j'en suis à un stade où je me dis, pour se développer, soit il faut que je fasse des programmes, plus high ticket, plus cher, entre guillemets, enfin, sans pour autant vouloir monter les prix tout le temps, mais disons qu'au bout d'un moment, pour se développer, soit je propose un programme à plus grosse valeur ajoutée sur un autre thème, ça serait pas vraiment un cours d'aquarelle, du coup ça serait quelque chose de différent, donc peut-être une autre niche.
Ouais.
Soit je fais plus de volume en fait, soit je touche de nouvelles personnes, et ça me plaît plus finalement, parce que ça me correspond mieux. C'est parce que c'est aujourd'hui mon cœur d'enseignement, on va dire, et c'est juste atteindre plus de monde. Et du coup, pour atteindre plus de monde, il me faut soit faire du contenu gratuit sur plein de plateformes pour avoir une audience qui me découvre de façon organique, donc une vidéo par semaine sur YouTube, plus de posts sur Insta, enfin voilà, toi-même tu sais, ou alors faire de la pub. Donc du coup, mon mari, il s'occupe un peu de la pub, donc ils gèrent les campagnes sur les différentes plateformes. Et le contenu, en fait, vu les envies que j'ai sur le contenu, j'ai envie de faire plein de choses. C'est quasi impossible de tout faire là toute seule. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui m'aide à, tu vois, me reprogrammer mon contenu sur le blog, qui me transforme des trucs en newsletter, qui, enfin, tu vois, qu'on ait une vraie stratégie de calendrier éditorial et que je puisse faire beaucoup plus sur mes différentes plateformes, quoi. Donc, voilà, ça serait quelqu'un sur ça. Mais bon, voilà, j'ai encore un peu du mal parce que vu que c'est... Ben, maintenant que je suis en société, voilà, savoir qu'est-ce qu'on... Comment on embauche, sur quel... tu vois, est-ce qu'on prend un CDI, est-ce que c'est pas trop risqué, est-ce qu'on prend un CDD, est-ce qu'on prend, j'en sais rien, un freelance. Là, on en est à ce stade de la réflexion pour voir les possibilités, quoi. Mais en tout cas, j'aimerais quelqu'un à temps plein, donc c'est vrai que ça fait un gros saut, quoi. Que ce soit mon mari en CDI, ça va, mais bon, une personne extérieure, c'est autre chose. Donc, bon,
j'imagine, mais c'est bien que t'en parles, parce que enfin moi, je trouve que c'est hyper intéressant et c'est inspirant, parce qu'on n'est on est peut-être pas tous à ce stade-là, mais on espère bien y arriver. Et ce sont des problématiques qui vont arriver par la suite. Ce que je voulais te demander, c'est que tu as une activité qui fonctionne bien, tu es une créative et une artiste. Donc, est-ce que tu as un ou quelques conseils à partager aux créatives qui nous écoutent? Parce que finalement, tu ne te contentes pas juste de créer de l'art. Tu es hyper active pour que ton activité réussisse et pour que tu puisses vraiment impacter la vie des gens et leur permettre de se détendre avec de l'aquarelle, tu vois. Moi, je te vois un peu comme quelqu'un qui se poudre un peu de positivité, de bien-être, tu vois, sur les gens comme ça, et qui leur permet d'avoir une activité où, voilà, je déconnecte un peu de tout ce qui se passe dans le monde et je prends juste du plaisir.
Bah, c'est exactement ce que j'essaye de faire, en tout cas. Donc, j'essaye d'inspirer, effectivement, les personnes. J'essaye de les aider à se débloquer dans toute bienveillance, parce que c'est loin d'être évident selon ta situation, quoi.
Oui.
Donc, je dirais qu'il ne faut pas se dire « Ah, je veux vivre de mon art, je veux devenir artiste, quoi. » C'est compliqué parce que, justement, en tant qu'artiste, en tant que personne qui aime, en tout cas, qui apprécie les loisirs créatifs ou qui aime un art en particulier... Tu as la vision de l'artiste maudit. Tout le monde a cette vision de l'artiste qui galère, qui vend deux peintures dans un marché de Noël et qui... Enfin, j'ai rien contre les marchés de Noël, mais ça permet de voir un peu l'image. Ouais. Et qui galère, quoi. Et c'est vrai que, pour moi, pour réussir à vivre de son art, il faut vraiment pas juste dire, bon, bah, du jour au lendemain, vas-y, je vais essayer de vendre mes originaux et on verra bien ce qui se passe. Il faut avoir une vraie stratégie, quoi. Moi, en démissionnant, je me suis dit clairement, tu te lances pas sans stratégie. Clairement, c'était pas juste, vas-y, je vais essayer l'aquarelle comme ça et on verra bien ce qui se passe. Non, 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 non. Parce que derrière, il y avait mes parents qui m'avaient payé 5 ans d'études. J'allais pas les décevoir en mode, ah ben, elle va faire 2-3 petits marchés comme ça et on verra bien. Ah non, c'était impossible, quoi. Il fallait vraiment que j'aie une stratégie. Donc, je pense que ce qui peut aider, c'est d'avoir vraiment une vision claire des différents business models, des modèles économiques qu'on peut viser en tant qu'artiste. Et je ne dis pas que vendre ses créations, c'est impossible, loin de là, je pense que c'est possible. Mais il faut vraiment se dire, bon, moi, par exemple, mon modèle économique, c'est de vendre des cours vidéo. Ce n'est pas la même chose que vendre des affiches ou vendre des originaux. Après, je pense que c'est possible de vivre bien de la vente d'originaux, de la vente de print, de la vente de faire-part et compagnie. Je vois des artistes qui arrivent très, très bien aussi. Mais il faut bien choisir sa stratégie en amont et faire un peu un plan d'action et se dire, ben voilà, si je veux gagner tant, ou enfin, en tout cas, mon objectif, c'est tant, il va falloir que j'ai une audience à peu près de telle taille. Enfin, tu vois, calculer tout ça, pas juste se contenter de, ah ben tiens, je sais bien peindre des roses et des eucalyptus, donc c'est bon, je me lance. Non, ça suffit pas du tout, je pense. Il faut vraiment réfléchir à toutes ces compétences, en fait, autour de l'art. Moi, je pense, c'est un peu comme quand on disait tout à l'heure sur le studio vidéo, je pense qu'il faut être prêt, en fait, à se dire, ben, j'apprends comment monter un studio, j'apprends comment créer un site internet éventuellement, ben, monter sa liste de mails, tu vois, typiquement par rapport à ton cours, comment développer un peu des stratégies marketing, comment apprivoiser les différents réseaux sociaux, lequel choisir. Tu vois, un minimum, connaître plein de choses, en fait, pas que sur l'art, parce que sinon, pour moi, juste faire de l'art et attendre que les gens viennent acheter, ça marche pas, quoi. Enfin, en tout cas, j'ai du mal à y croire. Je pense que ça, c'est vraiment la vision artiste maudit. L'artiste dans son atelier qui attend un peu les visiteurs. Et je pense qu'on peut casser cette vision. Grâce à Internet, on a la possibilité de mettre à disposition notre art un peu partout. On peut vendre, par exemple, des copies numériques de notre art, comme quand j'ai vendu pour mon Pulse, pour mon livre. Au final, j'ai vendu un peu mes... Mais je n'ai pas vendu d'aquarelles physiques, quoi. J'ai vendu des trucs digitaux. On peut créer des produits sur Internet. On peut développer son audience sur Internet. On peut toucher des marques via Internet et du coup, faire des projets réels et physiques voilà, dans la vraie vie, pas que sur l'ordi, mais en tout cas grâce à Internet. Donc, il faut en profiter. Mais du coup, pour savoir faire tout ça, il ne faut pas juste développer son art, quoi. Ça, c'est vraiment mon conseil
numéro
1.
C'est important de le dire, ouais. Et c'est important de le dire. Mais ça montre aussi que si tu t'en donnes les moyens, tu peux vivre de ton art, quoi. Il suffit juste de réfléchir en amont et d'avoir une vision claire sur ce que tu veux faire et les différentes choses que tu veux mettre en place.
C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, pour vivre de son art... On ne peut pas faire une croix sur son portfolio en ligne, quoi. Même une galerie qui veut des collections d'un artiste, a priori, il n'a pas besoin d'être sur Insta, a priori, il n'a pas besoin d'avoir toutes ses œuvres répertoriées sur Internet, sur un site et tout. Mais j'en parlais avec quelqu'un qui est dans ce milieu. Moi, ce n'est pas forcément mon milieu à moi, vu que mon milieu, c'est plus l'enseignement. Et il me disait, choisir entre deux artistes, un artiste qui a une petite communauté, qui sait se mettre en avant, qui sait se mettre en valeur, qui montre des images de son art, qui montre tout ça autour, qui fait tout ça autour, VS, quelqu'un qui est anti-réseaux sociaux, qui va te faire des tirades en mode, non, l'Internet, c'est non, et du coup, qui voudra pas qu'on prenne en photo son art parce que X ou Y raison. Eh ben finalement, il préférait la personne qui est sur Internet, quoi, qui est sur Insta, qui est sur les réseaux, tu vois. Donc au final, je pense que quand même, c'est important de se dire que juste son art tout seul, peut-être que si on a de la chance, si on a un réseau, si on a un atelier, si on a, tu vois, une famille qui a tout ça déjà avant, pourquoi pas. Mais tout seul, ça va être plus compliqué que si on développe toutes ses compétences autour et qu'on se dit, avec telle stratégie, on se renseigne, on suit des cours et on va y arriver, quoi. Il n'y a pas de raison. Et toujours être pair.
Ouais, mais c'est un bon exemple parce que je trouve que tu es une personne qui est très visible sur Internet. On parlait tout à l'heure du fait que, OK, il y a les cours en ligne, tu as fait plusieurs livres. Tu as fait aussi un set d'aquarelles. Du coup, là, tu viens de lancer un puzzle. Enfin, tu fais plein de choses. Est-ce que tu as une stratégie média pour décrocher tout? Tu as fait des workshops aussi. Tu en as fait chez Pinterest. C'est comme ça qu'on s'est connus. Ouais. Et mais du coup, comment tu gères cette visibilité? Est-ce que tu as mis une stratégie en place pour te faire connaître, tu vois, de cette façon?
C'est vrai que... Bon, c'est aussi au gré des opportunités après, hein, parce que j'ai pas vraiment une stratégie presse en mode, là, tel mois, je me mets tel objectif pour avoir tant de collaborations. Non, c'est plus les opportunités qui se présentent. Après, je dis quand même pas mal non aussi quand on m'écrit, parce que j'essaye de pas trop m'éparpiller. Je sais que mon cœur de métier, c'est les cours vidéo, c'est apporter des réponses aux élèves et c'est développer éventuellement de nouveaux programmes ou de nouveaux cours gratuits. Donc, je peux pas non plus... Il y a eu pas mal d'ateliers que j'ai refusés ou des événements autour de mes livres, des dédicaces que j'ai pas pu faire parce que sinon, je pourrais pas. Après, c'est vrai que ça reste... il y a quand même quelque chose que j'ai pu faire. Bon, après, pas tant que ça. Bon, c'est vrai que tout est relatif. Quand même fait 3 livres, ouais. Donc bon...
T'as fait pas mal de choses. Je te le dis, moi, je trouve que c'est impressionnant et c'est hyper motivant parce qu'en fait, ça donne l'image de quelqu'un qui ose... Enfin, qui saisit les opportunités. Et t'as peut-être forcément du syndrome de l'imposteur, mais je le vois pas comme ça en fait. Je te vois comme une personne qui se lance dans des projets qui, ok, certes c'est lié à ton activité de faire un puzzle par exemple, mais c'est pas ton... Je pense pas que tu t'es dit un jour je vais créer un puzzle avec mes aquarelles, tu vois.
Non, c'est sûr. Après bon, j'adore les puzzles, c'est vrai que j'aime bien ça, mais je sais pas, je me dis, bon déjà il faut que le projet me plaise, tu vois, les livres je les ai faits parce que ça me plaisait, les sujets à chaque fois, je me suis jamais forcée entre guillemets à me lancer dans ça, le Pulse.
C'est toi qui as choisi les sujets des livres ?
Oui et non, le premier, j'ai proposé plusieurs thèmes et c'est la maison d'édition qui a choisi les fleurs, okay. Le deuxième c'est moi qui ai quand même pas mal proposé, j'ose créer tout ce qui est le processus créatif, et le troisième c'est eux qui m'ont proposé.
D'accord. Voilà.
Mais ça me plaisait, j'adorais le sujet, donc du coup j'ai accepté. Je pense que c'est un mix. J'essaye quand même de me laisser de la place dans l'année pour faire ce genre d'événement. C'est-à-dire que je me dis pas non, cette année zéro événement, parce que je pense que c'est essentiel quand on est sur Internet d'essayer quand même aussi d'être pas que sur Internet. Moi ça a beaucoup aidé de faire des lancements pour mes livres, de faire des ateliers, rencontrer mon audience, me rendre compte en fait de leurs vrais problèmes. Ça a beaucoup aidé quand même ça, je l'ai surtout fait en 2019, parce que bon, en 2020, c'était plus compliqué. Oui. Et je me suis vraiment rendu compte, effectivement, de l'impact que ça pouvait avoir. Mais voilà, je me laisse un peu de la place dans mon calendrier pour ce genre de choses, mais j'avoue que c'est un peu au feeling, en fonction des projets, quoi. J'ai pas non plus... J'essaye, bien sûr, pour mes collaborations long terme, comme les palettes. Justement, ça, je peux plus l'anticiper, mais pour le reste, voilà, je dis pas forcément oui à tout, mais en tout cas, si je fais quelque chose, j'essaye d'aller à fond dedans.
Ouais, non, c'est bien. Je trouve en tout cas que c'est un bel exemple et j'espère que ton témoignage va permettre aux créatifs qui nous écoutent et aux artistes de croire en elles, tu vois, et de se donner les moyens de réussir, parce que moi, c'est ce que je retiens de notre échange et de ton parcours.
Ça paraît compliqué, en fait, de l'extérieur, mais après, il faut toujours décomposer. Il faut toujours décomposer et se dire, bon, étape 1, faire un pulse, il faut que je peigne le pulse. Donc, il faut que je peigne le truc. Comment je vais faire? Donc, ça, je sais faire. Peindre, j'ai l'habitude. Donc, je regarde les contraintes et en fonction des contraintes, je fais une première peinture. Puis après, j'améliore. Enfin, tu vois, c'est toujours des étapes. C'est jamais, bim, je fais un pulse, en fait. C'est toujours des petites étapes et mises bout à bout, on y arrive. Par exemple, faire un livre, au début, je ne savais pas faire un livre. Mais après, la maison d'édition, elle te dit, bon, on commence par faire un chemin de fer. Puis après, bon, le chemin de fer, c'est différentes parties. On commence par telle partie. Tu vas d'abord faire un brouillon. Enfin, tu vois, c'est toujours une étape après l'autre. Ouais. Au début, ça paraît overwhelming, mais au final, on s'en sort parce qu'on fait étape après étape. Et si quelque chose, on ne sait pas le faire, on va se renseigner, on va suivre une formation. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas si on met les bonnes volontés. Je pense que, voilà, moi, je n'ai pas fait de formation artistique ou quoi. Donc, si j'arrive, je pense que c'est faisable d'y arriver, quoi.
C'est vrai, je te rejoins là-dessus. En tout cas, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. Du coup, on peut te retrouver... Alors, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on peut te retrouver un peu partout. Tu es très active sur Pinterest, tu es très active sur YouTube, tu es aussi sur Instagram, il y a ton site. Donc, je vais mettre tout ça dans les notes de l'épisode, histoire qu'on puisse aller découvrir ton travail, parce que moi, je suis très impressionnée par la qualité. Tu dessines bien, oui, mais la qualité de tes visuels, je suis toujours très impressionnée. On voit qu'il y a, tu vois, il y a du travail derrière, quoi.
Merci beaucoup. Merci en tout cas de m'avoir reçu et puis à la prochaine alors.
À bientôt. J'espère que cet épisode avec Marie vous aura plu. Vous pourrez la retrouver sur Instagram et partout ailleurs sous le pseudo Tribulation de Marie. Je vous mets les liens directs dans les notes sur mon site internet. Et j'ai envie de vous dire, prenez bien ces conseils, absorbez-les et appliquez-les à votre propre activité artisanale et faites-vous plaisir et donnez-vous la possibilité de réussir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Build Yourself jusqu'à la fin. Vous retrouverez toutes les notes et ressources mentionnées sur le site mytrendylifestyle.fr et si vous souhaitez rejoindre une communauté d'entrepreneurs ambitieuses et déterminées, n'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook Communauté Build Yourself.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.